Georges Didier-Burman, Marianne Alphand. Vous avez parlé, Georges Didier-Burman, d'Henri Maldinet. Nous avons bien l'intention de saluer sa mémoire cette année à la Maison des Écrivains. C'est maintenant au tour de Jean-Max Collard de s'entretenir avec Cécile Vachebrot et Cynthiana Ravini. Jean-Max Collard, mais vous partez tous, ça ne va pas du tout. Je vais fermer les portes. Non. Jean-Max Collard enseigne à Lille 3. Il est aussi très au fait de ce que peut faire la littérature avec l'art contemporain et réciproquement. Il est commissaire d'exposition. Il s'occupe des pages art aux inrecuptibles. Et il vient de publier chez Mamco l'exposition Mes rêves, et il sera le commissaire de l'exposition Duras qui aura lieu ici en octobre. C'est ça. Je vous laisse.
Alors, bonsoir, merci. Et merci évidemment d'abord à Dominique Viard, à Sylvie Goudbaron, à toute l'équipe de l'AMEL pour l'organisation des enjeux de la littérature contemporaine. Merci évidemment à la BPI, au Centre Pompidou de nous accueillir. Je dois dire, c'est évidemment un plaisir de vous faire rencontrer Cécile Vachebrot et Cynthiana Ravini ce soir. On va essayer d'être polytechnique, puisqu'on va croiser à nouveau d'autres regards et d'autres manières d'écrire dans des approches qui peuvent concerner évidemment le champ de la littérature et le champ de l'art. Ça va être un peu notre sujet. C'est un plaisir de vous faire rencontrer nos deux auteurs, mais aussi de les faire se rencontrer d'une certaine manière, parce qu'elles ne se connaissaient pas cher, alors qu'évidemment, il y a une sorte de point nodal qui va nous intéresser pendant le temps de notre conversation, et qui va être, je vais m'en expliquer plus précisément, on va dire, la question de l'exposition. Donc l'idée qu'on a ici deux auteurs, mais vous allez voir deux auteurs qui ont un statut très, très différent, mais on a bien vu que les frontières et les territoires sont faits pour être traversés et croisés, et c'est bien l'objet ici, puisque on a donc avec nous Cynthiana Ravini, qui est critique d'art, qui est commissaire d'exposition, qui est éditrice en chef d'une revue d'art, d'un magazine suédois qui s'appelle Paletten, un excellent magazine suédois pour ce qu'on peut en regarder, parce que moi je ne lis pas le suédois, mais et on y reviendra. Et de l'autre côté, Cécile Vachebrot, qui est auteure d'essais, de récits, on va les appeler comme ça, parce que sur Sentinelle il y a quand même des questions génériques qu'on peut évidemment se poser, on va en parler. Donc auteur de nombreux textes depuis le début des années 90, traductrice aussi, notamment de Virginia Woolf. Qu'est-ce qui motive alors ce dialogue entre Cécile Vachebrot et Cynthiana Ravini? C'est évidemment, dans le cadre de la thématique des enjeux de la rencontre, c'est cette question de point de vue, de mettre en quelque sorte en regard l'une de l'autre ces deux productrices de littérature. Mais pour être un peu plus précis, c'est le point de départ, je dirais, c'est peut-être du côté de Cynthiana Ravini, qui produit des textes qu'elle nomme romans, et on pourrait aussi s'interroger d'ailleurs sur la forme roman de ces romans, mais des textes qui se produisent à l'intérieur du champ de l'art, puisque, et même à l'intérieur d'un espace précis du champ de l'art, puisque ce sont des expositions. Et donc ce sont des romans, on va les appeler comme ça, qui accompagnent les expositions dont Cynthiana Ravini est curatrice. Alors on peut citer Le Château d'Étain ou Trenslotted, puisqu'il est bilingue à l'envers, The Black Moon, qui était l'exposition du Palais de Tokyo, et The Hidden Mother, qui va nous occuper et qui était une exposition dans un lieu qui était lui-même au croisement de la littérature et des arts, puisque c'était au 40 rue Paul Valéry dans le 16e, qui est à la fois le lieu de Paul Valéry, mais aussi le lieu de Berthe Morisot. Donc on était déjà au croisement. Alors, étrange littérature que cette littérature qui se produit à l'intérieur du champ de l'art en accompagnement d'une exposition. Et puis, de l'autre côté, Cécile Vachebrot, qui a entrepris depuis trois livres, on va dire, un cycle de textes consacrés spécifiquement à la création artistique, Conversation avec le maître, qui traite de la musique, L'île au musée, qui s'intéresse à la question de la sculpture, des statuaires qui sont aussi bien dans les musées de Berlin que dans les Tuileries ou au Louvre. Et puis le dernier texte qui va nous occuper, qui est Sentinelle, dont le sujet, on va dire, de départ, ou dont l'action se déroule un soir de vernissage d'une grande exposition au Centre Pompidou. Donc c'est un peu une sorte de dialogue intramuros. Quoi. Mais, donc la question était un peu autour de cette rencontre entre non seulement deux auteurs, mais peut-être entre l'exposition et puis en même temps l'écriture littéraire. Et pour ça, Cinziana Ravini a donné un nom au texte qu'elle forme. Elle appelle ça donc des romans-expositions. Elle va s'en expliquer, et notamment, je le rappelle, le premier, The Hidden Mother, qui était un peu traité sur cette question-là. Qu'est-ce qu'un roman exposition? Je ne sais pas, mais en tout cas, personnellement, ça m'a évoqué, ça m'a rappelé toute une relation qui a été peut-être oubliée, distendue, entre le roman et l'exposition, et que du coup, avec ce petit terme générique qu'on peut tout à fait interroger, il y a une matière, évidemment, à constituer peut-être une bibliothèque plus ample. Il s'avère que moi, c'est un sujet, cette relation littérature-exposition, qui m'intéresse fortement, sur laquelle je travaille. Et donc, soudainement, voilà, enfin, pas soudainement, mais progressivement, une bibliothèque, évidemment, s'est constituée autour de cette relation. Une bibliothèque qui peut remonter aussi bien, qui peut passer par Pérec, remonter à Un rebours de Huysmans, ce qu'on pourrait regarder comme un roman-exposition, en même temps qu'un roman-catalogue, d'ailleurs, et qui pourrait aller jusqu'à Cécile Vachebrod, jusqu'à Thomas Clair, qui était encore il y a quelques instants dans la salle, pour Intérieur. Il est toujours là. Merci d'être resté. Et je le dis ça à tous. Voilà. Voilà, la première rencontre, elle se fait autour de ça. Et la question, c'est est-ce qu'on peut aussi considérer Sentinelle, peut-être, puisque pas simplement comme un livre sur la vidéo, puisque le sujet de l'exposition, le sujet de cette exposition, c'est un artiste vidéaste, mais peut-être plus encore, dans une démarche élargie, de voir finalement une littérature qui explore ce terrain et cet art de l'exposition. Alors, peut-être il faudrait commencer avec Cinziana, pour qu'elle nous raconte un tout petit peu qu'est-ce qui lui a pris d'accompagner son travail de commissaire d'exposition, de production romanesque, comment c'est venu, et voilà, comment ça se construit.
Vous m'entendez bien? Ouais. Alors, mon premier grand amour littéraire, c'était Goethe. Et ce l'est toujours, d'ailleurs, parce qu'on reste toujours fidèle à ce premier amour. Et après, mon deuxième grand amour littéraire, c'était le champ de la littérature française, où j'en ai plusieurs. Et après, j'ai fait l'histoire de l'art, et grâce à un prof d'histoire de l'art pour lequel je voulais écrire mon doctorat sur Botticelli et la relation entre Botticelli et Ficino, m'a dit très bien, vous pouvez revenir quand vous avez lu les 30 000 textes écrits autour de ce sujet. Et donc, ça m'a un peu. J'ai perdu un peu mon courage. Et donc, je me suis, après avoir fait l'histoire de l'art jusqu'à un master, je me suis lancée dans la littérature. Et là, j'ai fait donc un doctorat sur Goethe. Et je me sentais divisée entre l'art et la littérature. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient justement, mais Cinziana, qu'est-ce que tu vas faire plus tard pour trouver le lien entre ces deux mondes-là? Et je me suis dit, en arrivant en France, qu'il y avait quand même beaucoup d'artistes qui s'intéressent à la littérature. Je me rappelle, en 2006, avoir lu un texte écrit en Art Press, je ne me rappelle plus par qui avait dit effectivement que l'art français était trop littéraire, mais pas dans le sens littéral du terme, mais trop littéraire. Et ça m'a beaucoup fascinée parce que c'était écrit comme si c'était un défaut. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un art narratif soit défectaire ou nuisible? Et après, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas des gens qui font le lien en tant que curateur entre le monde de l'art et la littérature? Je suis quand même heureusement tombée sur quelques-uns. Il y a Émilie Renard, que j'admire beaucoup, et qui a toujours travaillé sur ce lien entre l'art et la littérature, notamment en inventant des personnages, etc. Donc, et après, comment je suis arrivée à écrire sur... faire cette exposition roman. Mais en fait, j'étais critique d'art à l'époque, je le suis toujours, malheureusement, mais il faut vivre de quelque chose. Et j'étais un peu blasée, et je tombe sur une œuvre qui, pour la première fois depuis très longtemps, me fait pleurer. Et je me demande, mais comment ça se fait? Heureusement, j'étais toute seule dans le noir, dans la galerie. Et je constate tout de suite après qu'en fait, c'était un sujet qui traitait de la mère. Cette femme avait amené sur scène sa mère et sa grand-mère sur la scène. Elle s'appelle Tova Mozart, une artiste suédoise, pour faire une psychanalyse dans le théâtre de Ingmar Bergman, Dramaten, avec une psychanalyste. Et c'était très fort. C'était vraiment une vidéo de 30 minutes qui m'a complètement bouleversée. Et à ce moment-là, je me demande pourquoi pas faire un travail sur ma mère que j'avais perdue et je voulais retrouver. Et en faisant Google un peu à hasard, et en essayant de chercher le titre, je tombe par hasard en faisant The Hidden Mother sur cette image qui est très étrange où on voit une mère, si c'est une mère, on ne sait pas si c'est une mère, ça peut être peut-être la bonne, ou... il y a plusieurs théories apparemment. Et jusqu'ici, il n'y a pas encore quelqu'un qui a écrit un livre historique là-dessus. Mais en tout cas, je prends cette image et je pars à la recherche de ma mère avec mon exposition en boîte en valise, un peu comme Duchamp. Pour savoir non seulement pourquoi elle m'avait abandonnée, question un peu grandiose, difficile à répondre, mais pourquoi elle avait trouvé Dieu 10 ans plus tard, et surtout je voulais la confronter à cette image. Et j'avais un discours très, très littéraire, très cérébral avec elle, jusqu'au moment où je sors cette image, et justement cette image, ça l'a fait parler, de manière que je pense que rien n'aurait pu le faire. Et donc voilà, c'était mon premier véritable expo roman. Ça, c'est plutôt un essai. Je recommande juste aux gens qui s'intéressent aux jeux littéraires péréquins. Mais c'est que ce roman où j'ai commencé vraiment à travailler avec mes propres histoires. Voilà.
Juste pour préciser, c'est que ces textes ont quand même un statut un tout petit peu particulier, puisque ce n'est pas le catalogue de l'exposition.
Ah non, je déteste le mot catalogue.
Il n'y a d'ailleurs pas forcément d'images des artistes présents dans l'exposition. Le livre est souvent distribué dans l'espace d'exposition. Il est régulièrement distribué gratuitement quand il est en coprésence, on va dire, de l'exposition, pas comme The Black Moon qui arrivera ultérieurement.
Oui, exactement, ouais.
Et je dirais qu'il y a aussi une sorte de décomplexion vis-à-vis d'une... Voilà, du coup, c'est une économie du livre qui est complètement différente de l'économie traditionnelle de la littérature. Mais voilà, pour toi, c'est quel statut, finalement, cet objet ? Parce que, voilà, ça n'est pas un catalogue, c'est en même temps un texte, une entreprise littéraire qui est aussi parfois une entreprise collective, c'est-à-dire des textes écrits avec les artistes, ou des textes comme The Hidden Mother, écrit avec l'autre commissaire d'exposition avec laquelle vous aviez fait l'exposition The Hidden Mother, c'est-à-dire Estelle Benazet. Donc, pour toi, quel est le statut, en quelque sorte, de cet objet littéraire, et pourquoi poser ça dans le champ de l'exposition ? C'est-à-dire, est-ce que c'est à considérer comme une pièce parmi les autres pièces des artistes ? Voilà, quel est le
statut ? C'est une piège, pas une pièce. Non, mais c'est une piège à la fois pour moi et pour les autres, parce que cette exposition, ça faisait parler les autres d'eux-mêmes. C'est ça que j'ai découvert. Après, je voulais déjouer un peu, décadrer la psychanalyse. J'ai un grand respect, bien sûr, pour Freud et Lacan, mais j'avais l'envie de sortir de chez mon psychanalyste comme si c'était au théâtre, pouvoir commenter la séance avec quelqu'un après. Et c'est très difficile de faire. Donc, j'ai demandé à Estelle, tu ne voudrais pas faire une psychanalyse à deux avec moi ? J'étais fascinée par cette image. Je pense que c'est l'école... comment ça s'appelle ? Française, où il y a deux femmes nues, où une touche le bout de sein de l'autre. Comment ça s'appelle ? L'école de la Fontainebleau, merci. Et donc, moi, je voulais qu'on se touche le bout de cerveau de l'autre, en fait. Voilà. Et comment trouver un psychanalyste qui dit oui à deux personnes sur le divan ? C'était pas évident. Et je me suis rendu compte de ça très vite en commençant à appeler le psychanalyste parisien. Et après, on a trouvé une qui a dit non seulement je veux le faire parce que c'est suffisamment fou, mais je veux me dédoubler. Et donc, on va être quatre. Donc, le roman commence avec ces huis clos sartriens où les psychanalystes, c'est ça qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, à la résistance de l'image. Ça, c'est une image qui aussi nous résistait énormément. Mais là, c'est les psychanalystes qui nous résistaient à nous. Dès qu'on commençait à parler de nos histoires personnelles, ils nous amenaient à Fra Angelico, etc. Donc, c'était très, très drôle. Et après, on s'est dit, bon, on s'en fout de la psychanalyse, on va commencer des échanges épistolaires. Donc, le deuxième partie du roman, c'est des échanges épistolaires. On fait quoi ? De l'autopoiésis, autopsychanalyse
sauvage,
on l'appelle. Parce que les psy, en fait, on les a demandé pourquoi est-ce que vous nous résistez dès qu'on commence à parler des choses personnelles ? Ils ont dit, c'est simple, on n'a pas envie de faire une psychanalyse sauvage. Donc ça nous a beaucoup interpellé, ce mot, psychanalyse sauvage.
J'ai l'impression que ce soir, on ne répond pas vraiment aux questions, puisque c'était un peu le thème tout à l'heure de la discussion, et que ça n'a pas répondu à la question du statut, c'est-à-dire pourquoi finalement c'est...
Mais il n'y a pas de statut, en fait. Non, mais c'est quelque chose entre les deux. Je pense que tout texte donne à voir, et comme Cécile elle donne à voir, tous les écrivains donnent à voir, et pour moi, c'est une forme de, à la fois d'écrire avec l'autre, donc je fais ça souvent, pour sortir du moi, et après pour passer un bon temps ensemble avec les artistes, parce que ça, on n'a pas... en fait, je déteste le travail de curateur qui ne parle que des œuvres, de la taille des œuvres, des assurances, des dates d'exposition et tout ça. En tout, je trouve que c'est important, aussi bien sûr de leurs œuvres, mais de trouver un récit commun. Donc ici, c'était un cadavre exquis où je commence le roman et après, c'est 17 artistes qui commencent à écrire, pas autour de leurs œuvres, donc ils sortent de la représentation, mais écrire tout court. Et donc pour moi, c'était une clé d'entrée dans leur travail incroyable, où je voyais mieux ce que j'avais vu avant. Et donc, c'est un outil de travail, en fait, je dirais.
Alors, je me retourne vers Cécile Ashbrout pour la question inverse, c'est-à-dire, pas complètement inverse, mais en tout cas, dans l'île au musée, on est en situation comme ça de... Il y a ces deux lieux, il y a les Tuileries, il y a Berlin, il y a les musées, et on est déjà... Mais on n'est pas encore, je dirais, dans une situation d'exposition, même si... Il y a tout ce jeu d'interaction entre la statuaire, les statues, les sculptures et le public, et notamment certains spectateurs, plus précisément. Mais donc, et dans le deuxième, dans Sentinelle, là, vous approchez dans une sorte de triptyque, en quelque sorte, de ce cycle haute mer, hein, musique, sculpture, vidéo. Et j'ai l'impression que, finalement, on touchait peut-être à autre chose qui était effectivement... cette question de l'exposition. Alors, est-ce que vous reconnaissez, enfin, pourquoi avoir finalement cet intéressé à la vidéo, mais finalement en la vidéo, d'atteindre peut-être une question un peu plus, enfin, un tout petit peu différente et un territoire un tout petit peu différent qui serait celui de l'exposition. Comment ça se passe et comment vous y reconnaissez quelque chose?
En fait, vous avez dit récit tout à l'heure, mais c'est des romans. Et ce que j'aime bien pour moi en tout cas, et voilà ce que j'aime bien dans le projet de Cinciana, c'est que ça s'appelle roman aussi, exposition roman, et que donc il y a quelque chose. J'étais un peu triste en fait en vous entendant Georges Didier Huberman et Marianne Alphand dire donc Marianne cet abandon du roman, et dire surtout que l'essai, même si évidemment dans ce que vous faites c'est ça qui apparaît, est une forme libre. Et effectivement, vos livres sont des promenades littéraires, on pourrait dire, ou philosophiques, mais en tout cas des parcours comme ça, où il y a un carrefour entre la pensée, l'écriture, et une part de recréation et de création. Mais moi, je pense que dans le roman aussi, on peut trouver ça. On peut trouver cette liberté, on peut trouver cette forme... Qui est encore à inventer, et cette mixité, en fait, que le roman n'est pas seulement une forme figée qui a été déterminée au XIXe siècle ou dans la modernité du XXe siècle, mais que c'est une forme qui continue à exister et qui continue à avancer. Donc, voilà, enfin, c'était un préambule, mais pour dire que c'est une question qui me travaille en permanence, en fait, cette question du roman, comment écrire un roman aujourd'hui et au XXIe siècle. Et donc, c'est pour ça que j'ai, en réfléchissant un petit peu, eu l'idée de ce cycle de romans autour de la question de l'art. Alors, pourquoi la question de l'art ? Parce que ça me paraissait... Moi, je ne suis pas historienne d'art, je suis pas, j'ai aucune compétence ni connaissance particulière dans ce domaine, mais je suis simplement quelqu'un qui, comme beaucoup de gens, va dans des musées de temps en temps, aime bien écouter de la musique, enfin voilà, aime bien différentes sortes, formes d'art, et trouve aussi dans les écrits d'artistes, que ce soit des peintres, je ne sais pas, je pense par exemple aux écrits de Beckmann ou de compositeurs, une source d'inspiration et de réflexion sur les formes littéraires, parfois plus stimulante, ou en tout cas au moins autant stimulante que dans les réflexions d'écrivains. Et donc voilà, ça c'était une des raisons, mais l'autre raison, c'est que j'ai l'impression qu'à notre époque, l'art a un statut très particulier. Et que, bon, c'est une banalité. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des queues monstrueuses pour aller voir des expositions. Il y a une place énorme de l'art au centre des vies contemporaines. Et la question, c'était un peu pourquoi ça a une telle importance. Je n'ai pas tellement de réponses, mais je voulais prendre ça un peu comme symptôme de quelque chose, comme une façon en fait de traverser notre époque, comme un prisme.
Sur la recherche quand même d'une écriture et quand même d'une aventure formelle, etc., ce que je trouve quand même très étonnant dans Sentinelle, et ce que tout le monde peut être d'accord, et qui fait quand même... Il y a un saut aussi entre l'île au musée et Sentinelle. C'est-à-dire que la forme de Sentinelle est très particulière, puisque ce sont non pas des dialogues, mais vraiment des fragments de conversation, de choses dites, en quelque sorte, et je dirais choses entendues. Il y a les choses vues de l'exposition, mais là, c'est les choses dites et les choses entendues par des spectateurs qui montent les escalators du Centre Pompidou, traversent les salles, etc., et redescendent après. Donc là, il y a un trajet de l'exposition qui structure quand même votre roman, puisque maintenant, on peut donc en parler. Et ce qui est quand même... Ce qui est étonnant, c'est évidemment cette écriture... comme ça, par bribes, par phrases, par morceaux de dialogue, qui me rappellent beaucoup de choses, qui me rappellent le projet qu'avaient eu Bourdieu et Buren au Centre Pompidou, puisqu'il y a eu un projet au moment de la rétrospective Buren, de travailler sur les propos des spectateurs dans l'exposition. Et Bourdieu avait eu ce projet de mélanger les propos des spectateurs, je dirais, les plus amateurs, mais aussi les spécialistes, mais aussi des paroles plus officielles, voilà, d'officialité au moment des vernissages ou plus politiques, et de tisser en quelque sorte des ordres de parole qui allaient de l'anecdote. On trouve ce tissage chez vous parce qu'il y a des phrases ordinaires, des phrases mondaines, etc. Il y a des phrases plus profondes, il y a des phrases personnelles de gens qui visitent une exposition tout en ayant des conversations qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils voient. Enfin, ou peut-être, après tout, ça fait partie de l'exposition d'être dans cette déliaison et de rassembler comme ça des choses qui pourraient sembler déliées. Et donc d'un côté, moi je pensais à ces expériences un peu, enfin à cette sociologie bourdivine appliquée à l'exposition, dans le projet avec Buren, et de l'autre côté, bon, vous êtes traductrice de Virginia Woolf, donc on pense quand même à Virginia Woolf, on pense beaucoup à Nathalie Sarraute, et je pense même plutôt à la Nathalie Sarraute des Fruits d'or, c'est-à-dire ce livre qui traite de la réception du livre, de la réception d'un livre dans un espace mondain, mais aussi dans un espace culturel, etc. etc. Et on est dans des flux de conscience, c'est-à-dire il y a vraiment une activité formelle. Du coup, il y a cette dimension d'aller sur le terrain de l'autre, c'est-à-dire d'aller sur la vidéo de l'autre contemporain, c'est-à-dire de la vidéo, l'installation, l'exposition. Et en même temps, bon, il y a un régime d'intertextualité qui fait qu'on est évidemment, c'est un moyen peut-être, ou c'est un espace dans lequel on peut écrire et se connecter aussi à une expérience, à des expériences littéraires ou à des formes littéraires héritées ou continuées, enfin. Vous reconnaissez dans cet héritage, dans cette question du tropisme ou de Sarraute et des Fruits d'or?
Oui, ben, les Fruits d'or, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, évidemment, quand je l'ai lu. Et c'est un livre qui, effectivement, m'a presque gênée. Enfin, c'est pas le mot. Mais disons, quand j'ai eu ce projet de roman autour de l'œuvre d'art et plus précisément avec la création, le problème de la création et en même temps de la réception, effectivement, j'ai pensé tout de suite aux Fruits d'or en me disant « mais je ne pourrais pas écrire ceci parce qu'il y a déjà les Fruits d'or et comment faire pour faire autre chose, pour faire autrement ?» Et voilà. Mais effectivement, enfin, ce que je trouve intéressant dans ce que fait Cinciana et ce que j'ai essayé de faire dans Sentinelle, autour de l'art vidéo, dans L'île au musée, bon, Conversation avec le maître, c'est la musique, donc c'est différent. Mais dans ces deux romans, qui ont deux formes très, très différentes, effectivement, c'est le pari de parler, c'est pas nouveau non plus. Moi, j'ai toujours été fascinée aussi par ce qu'on appelait au 19e siècle la transposition d'art. Et donc le sommet, c'est, enfin, je dirais juste le titre, c'est ce poème de Théophile Gautier, enfin le sommet dans le domaine de la transposition d'art, hein, c'est pas un modèle littéraire absolu, qui s'appelle Symphonie en blanc majeur. Et donc c'est un poème, et puis symphonie, blanc, il y a la musique, il y a la peinture. Et le défi dans ce genre de roman, c'est d'arriver à parler de quelque chose de visuel, c'est notre sujet, là, le sujet des enjeux, sans image. C'est-à-dire que nous, on a des mots à notre disposition, et vous faites quelque chose, vous avez l'image, le visuel dans l'exposition, mais dans le livre, il n'y a presque pas d'image. Et les images, enfin, quelquefois, il y a des photos d'objets qui font partie de l'exposition, mais dans Hidden Mother, pas du tout. Et donc, c'est intéressant ce pari de faire voir ou de montrer, mais pas montrer au sens de démontrer, de donner un regard pour reprendre ce que disait Dominique Viard en ouverture, mais un regard sans chose à regarder, simplement à travers une lecture.
Sur Cinziana, moi, ce que j'ai trouvé étonnant en lisant Hidden Mother, et par rapport justement à cette présence, je dirais, d'un intertexte qui vient, hein, c'est la communauté qui vient, c'est la communauté intertextuelle qui vient, quoi. Mais c'est quand on lit The Hidden Mother, alors là, pour le coup, tu citais tout à l'heure Goethe, moi j'avoue que soudainement j'ai pas de modèle littéraire, parce que ce texte qui mélange une séance de psychanalyse à quatre, puis après un peu d'échange épistolaire, de l'autopsychanalyse, et puis après chacune, Estelle Benazet et toi, vous racontez chacune une sorte de moments passés avec chacune avec sa mère. Alors bon, c'est là qu'on a des inégalités biographiques, puisqu'il y en a une qui va faire du shopping avec sa mère, ce qui peut être un problème, et toi tu vas retrouver ta mère en Roumanie qui est devenue comme ça une sorte de prêtresse un peu étrange. Donc évidemment il y a quand même un roman d'aventure qui se tisse sur la fin, qui est étonnant, mais surtout dans cette liberté des agencements formels, c'est-à-dire on a, voilà, un peu de dialogue, un peu de séance psychanalyse, des lettres, du récit. Et je me disais, mais finalement, est-ce que c'est parce que ça se produit dans le champ de l'art que du coup, on perd le lien un peu avec de l'intertexte, et qu'on se dit, soudainement, j'avais l'impression d'une nature qui n'avait pas vraiment de ligne littéraire aussi claire. Alors je me suis dit, est-ce que c'est des effets de champ, ou est-ce que, voilà, où étaient les modèles littéraires de cette écriture-là, quoi,
ouais, je pense que c'est un des plus beaux compliments que quelqu'un m'a fait. Mais si, il y a plein de modèles, je veux dire, des gens qui m'inspirent. D'abord, je suis très inspirée par Diderot, qui, des fois, fictionnalisait autour des œuvres qu'il voyait, justement, de sortir de ce cadre académique objectivisant, si on peut dire ça en français, où on essaye d'expliquer l'œuvre. Après, on a presque un orgasme littéraire, parce qu'on a résolu le problème et tout va bien. C'est pour ça que je détestais, par exemple, Back Sandal. Je pense que moi et mes camarades ont beaucoup souffert, Gombrich aussi un peu, mais Back Sandal surtout, qui était dans une sorte de écraser, tuer l'œuvre, quoi. Et nous, nous ne voulions pas tuer l'œuvre. Et alors, donc, Diderot, c'est un véritable modèle. Après, franchement, il y a tellement d'écrivains qui ont écrit sur là. Toi, je pense que tu es beaucoup plus
grand. Sur la question du roman.
Plus spécialiste,
sur la spécialisé de l'agencement de romans. Enfin,
la question, voilà, du roman, tu veux dire en soi.
Enfin, de cette forme d'écriture ou de ces formes de livres publié comme ça dans le cercle de l'exposition.
Ah, peut-être que c'est ce que te gêne, c'est que... Ouais.
Moi,
c'est...
ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas de modèle, hein, mais ce que, ouais, je veux dire, c'est que je trouvais que, voilà, il y avait... j'en voyais pas, en tout cas.
Oui, c'est super. Bah, moi, moi, j'essaie de voir, j'essaie de me dire que je ne suis pas seule au monde. je ne suis vraiment pas... Non, mais je pense qu'il y a des modèles littéraires, mais qu'on ne les connaît pas. Et en tout cas, je me dis ça.
Ah, je me suis dit, c'est peut-être la littérature suédoise.
Non. En Suède, en fait, on n'a pas le droit de travailler sur soi. On a même une chanson qui s'appelle « Tro inte att du är någon », qui veut dire « Ne crois pas que tu es quelqu'un ». que tu es quelqu'un. Don't think that you are someone. Et c'est presque comme un hymne national caché suédois. Donc travailler sur soi en Suède, je pense que je finirais accroché à un mur. Donc il n'y a pas un modèle suédois. Ça, mon travail. Mais s'il vous plaît, dans la salle, si vous n'avez des gens qui ont fait ça, s'il vous plaît, approchez-moi après et éduquez-moi un peu.
Alors, c'est un peu une question, Cécile, c'est que dans Cécile Vachebrot, dans Sentinelle, il se passe quelque chose. Il se passe.
C'est pour ça que c'est un roman aussi.
Voilà, il y a une action qui est quand même un peu importante. C'est-à-dire, on peut peut-être juste le dire, c'est sans révéler tout. Hein, je pense qu'on en est loin.
Parce que c'est pas un roman policier
non plus. Non. On peut dire une panne d'exposition. Ce qui peut être un peu embarrassant quand on est un peintre, parce que bon, c'est juste une question d'éclairage, et bon, évidemment. Mais ce qui est plus embarrassant dans le cas d'une exposition, d'un rétrospectif d'un artiste vidéaste, parce que là, ça veut dire que les écrans s'éteignent et qu'on est plongé dans le noir. D'ailleurs, j'en signale que Bertrand Lavier disait, lui, qu'il préférait aller à la Biennale de Venise en août, c'est-à-dire quand toutes les vidéos étaient cassées. Donc ça lui permettait de faire une visite un peu aérée de la Biennale. Mais là, c'est une vraie panne. Et du coup, cette population qui visite l'exposition, etc., se retrouve comme ça, momentanément, plongée dans le noir. Et je me suis dit que là, il y avait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'avec cette plongée dans le noir et avec les tropismes que vous consignez d'une certaine manière, et inventé évidemment, mais qu'il y a cette consignation comme ça de tropisme, vous entrez dans une sorte d'enfoncement, parce qu'on s'enfonce dans cette... on traverse, on voit ces voix qui disent, mais qui cherchent dans l'obscurité, qui cherchent à tâtons. Et il y a donc l'idée d'une littérature aussi qui se cherche, d'une foule, d'une communauté qui cherche peut-être aussi un sens, une voix, quelque chose, etc. Donc, soudainement, on aboutit à un roman qui trouve une profondeur et que moi, je trouve très intéressante au sens où ça dépasse la satire. Parce que finalement, quand on lit beaucoup de romans contemporains sur le champ de l'art contemporain, très souvent, on s'en tient à une satire des mondanités, etc., etc. Ça fait partie, je dirais, ça fait partie du genre, on va dire, sur hérité du roman de l'artiste, c'est la satire du milieu, etc., etc. Alors vous, il y a un peu de dimension satirique du milieu, parce qu'on est là dans un espace de mondanité, mais soudainement, on s'éloigne de la mondanité mondaine de l'exposition pour toucher, pour s'enfoncer comme ça dans une obscurité. Et ça correspondait pour vous à quoi ? J'ai l'impression que c'est là peut-être un moment où on je dirais pas qu'on sort de l'exposition, mais on sort d'un rapport technique ou d'un rapport artiste à l'exposition, de celui qui l'a fait, qui compte la longueur des salles et tout ça, pour toucher peut-être à autre chose, ou nous enfoncer en tout cas dans une autre matière.
Oui, mais en fait, ce roman, il est écrit, donc j'insiste, hein, c'est un roman, mais le défi était d'écrire un roman sans narration, c'est-à-dire uniquement sous forme de dialogue, comme vous avez dit, ce sont des bribes de conversation. Il y a aussi des monologues intérieurs de personnages, si on peut dire, de figures qui reviennent, de figures récurrentes qu'on finit par, je pense, par reconnaître petit à petit. Il y en a 6 ou 7, je ne sais plus très bien, mais de cet ordre-là. Et donc, effectivement, quand on saisit ces bribes de conversation, comme quand on passe dans un vernissage, on saisit au passage des bribes, c'est un petit peu comme une caméra qui viendrait de très loin et puis qui de temps en temps fait un gros plan. Donc ça correspond au monologue intérieur. Et mais du coup, quand on a affaire, c'était un peu un défi aussi que je m'étais lancé, parce que je trouve que le dialogue, c'est vraiment difficile dans le roman, et que surtout, enfin souvent, il y a interruption, discontinuité entre la narration et le dialogue dans les romans qui sont constitués comme ça. Et donc je voulais essayer de voir si je pouvais, tout en rapportant des bribes de conversation, donc qui sont vraiment la discontinuité même, créer une continuité. Bon, tout ça pour dire, c'est un petit peu long, que forcément, ce qu'on saisit, c'est extérieur et superficiel. C'est-à-dire, c'est juste du langage, des choses dites. Mais quand le noir, donc c'est une panne de courant qui intervient, donc les gens sont plongés dans l'obscurité, il y a une certaine panique, une angoisse qui s'installe et qui les oblige, comme il n'y a plus ce contact qu'on peut avoir visuel et en même temps superficiel avec l'autre, qui se traduit par le langage, mais le langage dans le sens de simplement de bribes de conversation, d'échanges de politesse ou un peu plus. Donc ça oblige à un retour en soi, vers soi, et donc dans une intériorité. Et donc c'était ce contraste un peu que je voulais explorer en créant, en inventant cette panne.
On va venir à la relation là, qui se joue avec The Hidden Mother, mais pour dire que cette littérature sans narration, ou je dirais même sans narrateur aussi, puisqu'il n'y a pas un narrateur central ou plusieurs narrateurs qui pourraient assumer, ça avance vraiment par les bribes de dialogue. Je me dis que quand je pense à d'autres écrivains contemporains qui travaillent une littérature comme ça, qui essayent une littérature en s'affranchissant en quelque sorte de narrateurs centrés et centrants, on va dire, c'est souvent des littératures du dispositif, des littératures où on essaye de faire parler le dispositif, de faire parler la machine, que ce soit la vidéosurveillance, avec, par exemple, je pense à quelqu'un comme Patrick Bouvet, que ce soit le dispositif télévisuel. Et du coup, là, ici, c'était une manière de... Parce que l'exposition, c'est un dispositif. Et que du coup, ça faisait parler aussi un peu le dispositif général. Parce que dans cette angoisse qui monte, on a des voix singulières aussi qui montent, donc des peurs individuelles, etc. Mais aussi, finalement, une entité collective. Et je me suis dit, c'est une manière aussi de faire avouer le dispositif.
Oui, c'est-à-dire de révéler en cachant, en masquant, comme de « Hidden Mother ».
Ben, on en vient donc à Tiziana, on revient sur Tiziana, c'est qu'on voit bien le lien à ce moment-là qui se joue avec The Hidden Mother, c'est-à-dire c'est cette dimension un peu psychanalytique. Et un des points communs, quand je pense à ça, je pense au roman de Nathalie Léger qui s'appelle L'Exposition et qui se consacre à la comtesse de Castiglione, c'est que finalement on touche là à une idée justement de l'exposition que souvent les commissaires, les artistes, dans leur approche spatiale, technique, curatoriale de l'exposition, oublie un peu. C'est tout simplement le fait que exposer, c'est s'exposer. Et que du coup, on touche là peut-être à quelque chose. Et ça, je trouve que c'est intéressant, c'est que le point commun entre vous deux, c'est que le roman, l'écriture, est un coup de sonde envoyé finalement, soit dans le dispositif expositionnel, soit dans l'exposition que toi, tu montes avec Estelle Benazet. C'est-à-dire, soudainement, vous ne racontez pas l'exposition, mais vous sondez, et même avec la psychanalyse, vous sondez votre propre, ce qui vous motive. Et donc, il y a cette entreprise d'une psychanalyse collective aussi, là, presque curatoriale. Ce n'est pas simplement moi, c'est aussi finalement les curateurs de l'exposition. Et on sonde l'exposition plutôt qu'on ne la promeut ou plutôt qu'on en fait l'analyse historique, etc. Et là, je trouve qu'il y a un lien très fort, c'est-à-dire on touche peut-être à autre chose qui est parfois cachée dans l'exposition, mais qui est tout simplement la part exposée de soi ou la part exposée de soi.
Ouais. En fait, moi, je ne m'intéresse pas uniquement à faire donner à voir, mais aussi à faire parler les gens. En fait, je me rends compte de ça maintenant. Quand tu parles que ce n'est pas uniquement tout texte, pour moi, il y a une littérature extrêmement visuelle, comme chez Catherine Robbe-Grillet, qui est avec nous ce soir, où j'ai l'impression que j'ai vécu, j'ai été dans chacun de tes romans, carrément. Mais c'est bien sûr une illusion, ou illusion uniquement, mais c'est vraiment une littérature cinématographique, où Thomas Clair, j'ai l'impression d'habiter dans ton appart maintenant, et donc, de temps en temps. Donc, c'est vraiment une écriture, pour moi, l'écriture est... fait l'image et vice-versa. Mais quand il s'agit de ce que tu abordes là, qui est quand même important de discuter aussi, c'est l'exposition en elle-même, est-ce que ça ne devient pas redondant? Il faut en ce cas-là justement que le roman ne soit pas un catalogue, ne soit pas une représentation de l'exposition qui vend l'exposition aux autres, mais quelque chose qui fait qu'on se met à nu en tant que curateur. On ne connaît plus le curateur qui arrive avec une théorie toute faite comme un extraterrestre qui va annoncer les choses et expliquer aux gens comment. C'est plutôt l'inverse, c'est devenir enfant. Je pense que quelqu'un avait utilisé ce mot, plutôt, je ne sais pas qui, mais de se rendre fragile à l'autre. Et donc, d'où l'importance du regard croisé. C'est ça que je voulais expérimenter avec Estelle, en fait. J'ai dit à ma productrice, je voudrais qu'on amène nos regards, que ce n'est pas le regardeur qui fait l'œuvre, mais nos regards croisés qui font l'œuvre. Et bien sûr que vous visitez tous des expos ensemble avec des gens, mais rarement ce discours est transcrit quelque part. Donc ce regard croisé disparaît, il n'y a pas de traces. Et donc c'est la traçabilité du regard croisé que je voulais explorer en fait. Et après je me suis dit, mais maintenant le regardeur, le visiteur, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Je me suis dit, je vais reconstituer le cabinet de Freud. Je ne peux pas me permettre d'amener des choses qui étaient vraiment identique comme son cabinet, mais quelque chose dans le sens du cabinet de Freud, pour que les gens puissent choisir de faire une psychanalyse sauvage à leur tour et prendre une œuvre qui les avait touchés ou qu'ils détestaient et prendre rendez-vous avec moi ou mes assistantes et choisir s'ils voulaient jouer le rôle de psy, c'est-à-dire écouter quelqu'un pendant 30 minutes ou 45, c'était un peu plus à la Freud que Lacan, ou vice-versa, c'est-à-dire s'allonger sur le divan et parler à quelqu'un que tu ne connaissais pas, d'une œuvre qui t'avait touchée. Donc l'œuvre comme point de départ, et après parler de toi. Et donc ça, c'était ça la règle du jeu, parce que je trouve que les règles du jeu sont importantes, plus que les concepts. La règle du jeu, c'est d'accepter de s'ouvrir, rester anonyme dans le sens où tu pouvais utiliser un faux nom, ou quelque chose pour que je puisse, de toute manière, quand j'enregistre, catégoriser ces rencontres, ces psychanalyses sauvages. Donc maintenant, j'ai une bibliothèque de 30 psychanalyses sauvages, incroyable, qui pour moi est 10 fois plus fort que tout ce qu'on a fait là.
Mais ça, c'est un projet en cours, c'est un projet qui a été fait, cette exposition en...
Oui, j'ai une bibliothèque de psychanalyses sauvages. Où il y a toujours deux personnes et des fois ils ont changé de place, donc celui qui s'est laissé analyser a voulu aussi prendre le rôle de l'autre, place de l'autre, donc on a vraiment de jouer ça. Ouais.
Cécile Vachereau, puisqu'on est dans les projets, qu'est-ce qu'on fait après un cycle?
Mais il n'est pas fini.
Ah, il y a toujours des cycles dans le cycle, on a vu, donc du coup ça...
Non, mais c'est un cycle, je pense qu'il y en aura 5, et donc là c'était le 3e, et j'ai presque terminé le 4e.
Bon. Est-ce qu'on peut vous demander de lire? Alors la question, c'est, on va juste avant, c'est que Cinziana, dans la dernière version, enfin dans la dernière exposition qu'elle avait organisée au Palais de Tokyo, qui était The Black Moon, où elle faisait partie des jeunes curateurs de l'exposition estivale du Palais de Tokyo, là, tu as produit, on a un texte qui est un dogme, mais tu as produit non pas un roman, mais un film. Est-ce que tu peux juste nous le raconter, sachant que moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est cette décomplexion qui fait que, on peut faire un roman, mais on peut faire un film. Et du coup, c'est aussi la situation un peu seconde de la littérature dans ce paysage, c'est-à-dire que ça n'est pas le roman et la littérature qui est au centre de la production. Il y a une exposition qui s'accompagne d'un roman et puis à laquelle on peut faire un... Donc, du coup, avec le fait de produire un film à partir d'une exposition, j'ai l'impression que tu mets en place autre chose qui serait un système de production où une exposition peut donner lieu à un film ou à un roman et que du coup, on sort un peu de cette relation littérature-exposition, quoi.
Oui, mais déjà là, il y a beaucoup de précurseurs. Il y a déjà Alain... Alain Robbery, oui. Tout d'un coup, j'ai un trou. Oui, excusez-moi. Alain Robbery, justement, qui a fait une dizaine de films qui étaient, je ne sais pas si c'était des adaptations de romans ou des scénarios, mais avait quand même la volonté d'un écrivain de faire du cinéma. Et pour moi, ça, c'est la chose la plus... Et comme Duras, pareil. Duras a fait du cinéma à partir de ce roman, des fois, ou pas du tout. Donc, il n'y avait pas du tout ce lien. Et je pense que par rapport aux artistes, il y a beaucoup d'artistes qui ont approché le monde du cinéma de l'exposition. Parlant de Pierre Huyghe ou de Philippe Arnaud, un peu. En fait, Philippe Arnaud avait dit une fois j'aimerais bien faire des expositions. Non, des cinémas, des films sans caméra.
L'exposition comme un film sans caméra.
Voilà, c'est ça. Merci. Faire une exposition au Palais de Tokyo, pour moi, c'était trop facile. Donc, je voulais vraiment créer un nouveau... Donc, comme je n'avais jamais fait un film, il fallait que j'aille des vrais acteurs, parce que je pense que souvent, dans l'art, on prend en suédois, on dit beer, skådespelare, je crois qu'on dit beer actors. Des acteurs B, on dit. Ouais. C'est-à-dire pas des acteurs très... de doubleurs, non, vous dites. En tout cas, donc je voulais avoir des vrais acteurs dans ce film. Donc il fallait les séduire, il fallait les conquérir. Donc il a fallu que je fasse un vrai scénario. Et donc voilà, j'ai réussi à persuader, à convaincre Mathieu Demy, qui est non seulement acteur, mais aussi metteur en scène, et Sabrina Sevecou.
Alors, on avait évoqué l'idée de montrer un extrait du film, pour passer comme ça du roman au cinéma. Tu y as renoncé, mais est-ce qu'on peut quand même avoir accès au film ? Comment on fait si on veut voir le film ?
Oui, j'ai renoncé parce que je pensais qu'il fallait plutôt parler que de montrer des choses aujourd'hui. Et surtout parce que je pense que montrer juste un extrait d'un film qui était pour moi si important, je pourrais pas choisir un moment. En fait. Et donc je me suis dit comment faire, donc, j'offrirai aux ceux qui veulent une dizaine de personnes ma carte de visite, je le mettrai là. J'ai 10 cartes de visite et voilà, et vous contactez et je vous envoie le lien, en échange vous m'envoyez votre lecture de ce que vous pensez, voilà, 2 lignes ou 3 lignes ou n'importe quoi, donc vous pourrez quand même le voir mais en intégrité plutôt que juste un fragment, voilà.
Alors, on va demander à Cécile Vacherot, pour terminer cette soirée d'inauguration comme ça, des enjeux de littérature, pour entendre du texte. Et donc, on va demander à Cécile de nous lire un extrait de son choix, pour donc de Sentinelle.
Je vous lis le début, alors. Pour terminer, nous montons comme aspirés par une force. Paris s'élève devant nous, se découvre peu à peu. Tant de maisons, tant d'horizons. Dans la rue, rien ne laisse présager. Nous marchons, les yeux baissés, attirés par le sol. Tout corps qui tombe est attiré vers le bas. C'est la loi de la gravitation universelle énoncée par Newton. L'histoire de la pomme. Doit-on dire attraction ou gravitation ? C'est la même chose ? Je ne crois pas. Mais nous marchons, les yeux baissés, dans les rues bordées d'immeubles qui barrent la pensée, sans savoir qu'autre chose existe. Et Paris se découvre. Nous montons. D'abord les maisons, leur verticalité, puis les toits et au-delà, l'horizon lentement s'élargit. Le relief apparaît, la colline de Montmartre surmontée du Sacré-Cœur et le ciel d'habitude invisible. J'habite au premier étage, sur cour. Même au deuxième, il fait encore sombre. De plus en plus, le rez-de-chaussée est investi. Il suffit de vitres opaques, d'un rideau et un local commercial se transforme en appartement. Vous, ici ? Une rencontre sur des escalators, c'est original. Je ne manquerai cette soirée pour rien au monde.
Bien, merci infiniment à tous les trois. Merci à toi, Jean-Max, de montrer comment nous travaillons aussi, c'est-à-dire que tu es à la fois questionneur, mais les réponses t'intéressent au plus haut point, et ça, c'est toujours agréable à entendre. Merci à tous. Demain, nous avons, et merci à la BPI, bien sûr, de son accueil. Demain matin, nous nous retrouvons à la Maison des Cultures du Monde, qui est un nouveau lieu pour nous. 10h15, le rendez-vous. Et demain, nous prendrons appui sur ces archives. Je ne veux pas les dévoiler toutes, mais sachez que nous pourrons entendre ensemble Virilio, Derrida, et puis on saluera la pensée d'Elifor. Au fil des jours, et puis d'autres encore que je ne dis pas du tout parce que ça c'est un peu l'effet de surprise pour demain, et on commence la matinée par le dialogue de Marcel Cohen et de Robert Bobert, et c'est Wolfgang Assolt qui les mettra tous les deux en face l'un de l'autre. Merci beaucoup.